la fille juste là, sur la chaise de Mme Paradis. Alors, on va commencer. On va se courber ensemble dans un mot de prière. D'accord? Eh bien, Père, je veux te remercier pour le privilège qui m'est accordé à moi d'étudier ta parole toute la semaine, Seigneur. De passer ces heures à lire ce que des hommes de Dieu ont compris, à lire tes Écritures, à essayer de comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Tu es un être grand, Seigneur, et tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Seigneur, c'est notre désir d'être des adorateurs, de grandir comme des adorateurs qui te plaisent. Mais pour cela, Père, nous avons besoin que tu viennes changer notre manière de voir la vie, notre manière de voir les choses, et que tu viennes changer nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre à t'aimer, à te connaître, à te servir, et que tu nous donnes de bonnes dispositions de cœur pour devenir des adorateurs, Seigneur, pour te garder au centre de notre vie, pour prendre véritablement plaisir en toi, Seigneur. Père, je veux te demander d'éclairer nos intelligences ce matin, notre pensée, afin qu'on puisse saisir ces choses de ta parole. Je te prie, Père, d'être avec moi afin que tout ce que j'enseigne soit conforme, que je n'aie pas au-delà de ta parole. Viens nous bénir ensemble, Seigneur. Viens nous faire grandir. Et encore une fois, viens changer nos cœurs pour que nous prenions plaisir à grandir dans notre foi, à te servir, à t'honorer. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, on passe à la leçon 3, qui est en fait, je pense, la cinquième rencontre. Je le mentionne parce que les cours sont enregistrés. Ils se retrouvent sur le site Internet de l'Église. Et les notes sont disponibles aussi sur le site Internet. Donc, ça peut être un petit peu mélangeant parce que c'est marqué, je crois, comme le chapitre 3, puis on est à la cinquième rencontre. Il y a un décalage puisque j'étire certaines leçons. Je n'arrive pas nécessairement à couvrir toute l'information à l'intérieur d'une leçon. Je mentionne encore une fois, le cours est basé sur un livre, « En esprit et en vérité ». Encore une fois, dans les notes, vous allez trouver toutes les informations, les références sur le livre. Il est en anglais, premièrement, il a été traduit en français. Je vous avertis tout de suite, avant de l'acheter, je vous encourage à feuilleter celui que j'ai. C'est assez costaud comme théologie. Et je sais qu'il y a des personnes qui avaient décidé de prendre ce livre-là pour pouvoir faire des méditations puis des réflexions ensemble. S'il y en a qui veulent le voir, je l'ai disponible, je peux le faire circuler. Mais il y en a qui voulaient le prendre pour faire des méditations. C'est ça. Il faut avoir le goût d'étudier la parole, je vous avertis. C'est tout accessible. Chaque fois qu'il y a du grec, il nous donne ça en français à côté, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances du grec ou de l'hébreu. Mais c'est costaud, c'est solide. Alors, regardez le livre si vous voulez l'acheter. C'est certain que je ne peux pas couvrir toute la matière qu'il y a dans ça. Vous allez voir, ce matin, on rentre dans des sujets qui sont plus difficiles que ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? On passe au Nouveau Testament. Donc, ce que je vous encouragerais à faire, c'est prendre le temps de lire les notes. Je ne peux pas couvrir toute l'information que je vous mets dans les notes. Si vous prenez le temps de relire les notes de manière posée, avec votre Bible ouverte, pour aller voir des références, parce qu'il y a beaucoup d'idées qu'on va voir, et ça prend du temps pour que ça rentre, les idées. D'accord? Vous allez les revoir à travers des prédications. Les thèmes qu'on aborde, c'est des thèmes qu'on aborde en exposant les Écritures. Mais ça prend du temps pour rentrer ces choses-là dans notre pensée. J'ai dit quelque chose, je pense, à la première leçon, puis tout de suite, j'ai eu une main levée. J'ai dit « Jésus est le temple. Jésus est le nouveau temple. » On va aller là-dedans ce matin. Puis là, tout de suite, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit, « Ouais, mais ce n'est pas l'Église qui est le temple dans le Nouveau Testament. » Oui, l'Église est le temple, le corps d'un croyant est le temple, puis Jésus est le temple. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'informations. Il faut aller le voir, c'est où dans les Écritures, tout ça. D'accord? On va commencer à faire ça ensemble ce matin. Donc, je vous encourage à prendre le temps de lire les notes. S'il y a eu trop d'informations dans le cours, allez écouter les MP3 sur le site Internet. C'est probablement possible aussi de les faire graver si vous voulez les avoir en version CD. Simplement vous rappeler aussi, puisque le cours est enregistré, moi je prends vos questions, il n'y a pas de problème, vous levez la main. À un certain moment donné, j'arrête d'en prendre parce qu'il faut que j'avance dans le temps. Mais je prends vos questions et je dois les répéter. Alors j'apprécierais que vous ne me donniez pas un paragraphe à la fois, mais simplement une question, un commentaire, une observation, elles sont toutes bienvenues. Je vais les répéter pour le micro afin que les silences des auditeurs qui vont écouter ça plus tard, ça soit compréhensible. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ressources semblables en français de disponibles sur Internet. Alors, c'est pour ça qu'on se donne un peu le trouble là, d'enregistrer ça et de rendre ça disponible sur le web. D'accord? On a terminé notre survol de l'Ancien Testament. D'accord? On a passé 3 rencontres, en réalité, sur l'Ancien Testament. Et en principe, on a terminé de survoler le sujet de l'adoration dans l'Ancien Testament. Nous passons au Nouveau Testament. Je demanderais de venir vous asseoir devant les colonnes autant que possible. Donc, on passe au Nouveau Testament. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça si rapidement? Bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup d'idées qui sont en germe dans l'Ancien Testament. D'accord? Elles sont présentes, elles sont là dans l'Ancien Testament, mais c'est comme une fleur. C'est comme une fleur qui se prépare, qui est enfermée dans un bourgeon. Et c'est vraiment avec la venue de Jésus-Christ que cette fleur-là va éclore. Il y a beaucoup de choses qui semblent très, très claires dans l'Ancien Testament. Puis lorsque tu vois le sens jusqu'où Dieu voulait aller avec ça, dans le Nouveau Testament, quand Jésus arrive, là tu réalises que finalement c'était on faisait juste effleurer l'adoration, on faisait juste effleurer même la personne de Dieu dans l'Ancien Testament. On faisait juste découvrir ce que c'est une relation avec Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, on va consacrer beaucoup plus de temps au Nouveau Testament, évidemment, parce que la venue de Jésus-Christ vient tout transformer. La révélation devient complète avec la venue de Christ. Et ça, c'est important pour nous. Ça change notre manière de voir l'adoration aussi, évidemment. D'accord? Comme je l'ai mentionné au début du cours, une des choses qu'on va essayer de faire ressortir par rapport à la comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un aspect de continuité puis de discontinuité. Il y a des choses qui s'arrêtent avec la venue de Jésus-Christ parce qu'elles sont accomplies, pas parce que Jésus les a abolies, parce qu'elles sont accomplies, on va en souligner ensemble. Il y a des choses qui se poursuivent, mais elles se transforment toutes. Alors, qu'est-ce qui se poursuit dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui est transformé avec la venue de Jésus? Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui s'arrête? Essayez de garder à l'esprit ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'Ancien Testament, puis on va voir comment ces choses-là se transforment lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et on rentre de plein pied dedans ce matin en parlant de Jésus et le Nouveau Temple. On parle vraiment d'une transformation, d'un accomplissement. On commence à entrer dans ce sujet-là ce matin. Les choses à retenir de l'Ancien Testament, les thèmes majeurs qui vont se poursuivre dans le Nouveau Testament, se transformer, mais se poursuivre. On a parlé de la révélation. Allez-y. Le service. OK, ça c'est le langage de l'adoration qu'on a vu la semaine dernière. Les grands thèmes qu'on a vus avant ça, même dans la première leçon, on avait vu la révélation, la rédemption, l'alliance, la vocation d'Israël. Alors, la révélation, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que selon les Écritures, nous n'avons pas à définir Dieu. On n'a pas à imaginer Dieu, on n'a pas à concevoir Dieu. On ne peut pas connaître Dieu intuitivement. Ce qu'on peut connaître de Dieu intuitivement est très, très limité. Paul nous dit qu'en regardant la création, on peut deviner qu'il y a un Dieu. Mais nous connaissons Dieu parce qu'il se fait connaître à nous. Donc, la révélation est très, très importante. Dans l'Ancien Testament, ça va se poursuivre dans le Nouveau plus que jamais, d'accord? Révélation. Nous sommes des adorateurs parce que Dieu s'est fait connaître à nous. On adore le Dieu qui s'est révélé à nous. Sans révélation, on ne pourrait pas l'adorer, d'accord? La rédemption. Nous sommes des adorateurs. Dans l'Ancien Testament, Israël, c'est un peuple d'adorateurs qui a été racheté. Non seulement Dieu s'est révélé, mais il les a rachetés. S'il ne les avait pas rachetés, ils ne pourraient pas devenir des adorateurs parce qu'ils sont pécheurs et lui est saint. D'accord? La rédemption. Quelle forme principal va prendre l'adoration dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance. D'accord? Dans l'alliance, Dieu a donné ses conditions pour être rencontré et ce à quoi lui s'engageait envers le peuple d'Israël. Être un adorateur de Dieu dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël, c'est honorer l'alliance. Un peu comme nos mariages, où on a fait une alliance ensemble, et lorsque j'ai prononcé mes vœux et qu'Esther a prononcé ses vœux, nous nous sommes engagés. Et qu'est-ce qui me dit qu'Esther m'aime, ultimement, c'est quand Esther honore ses vœux. De la même manière, lorsque moi j'honore mes vœux, Dieu a traité une alliance. Être un adorateur de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est honorer l'alliance. Et là, on a vu ensemble, ça veut dire autre chose que simplement venir au temple puis se mettre à chanter des louanges à Dieu. C'est ce que les prophètes vont dénoncer. Le peuple qui vient offrir des sacrifices, qui vient chanter des louanges, mais tout le reste de l'année n'honore pas l'alliance dans son cœur. Il dit ça, il dit c'est comme des ordures à mes yeux ce que vous faites là en venant chanter vos chants. C'est nauséabond, ça me déplaît complètement parce que c'est de l'hypocrisie. L'alliance, la vocation, ce peuple qui a été racheté pour vivre autrement. C'est un peuple qui est sanctifié, qui est mis à part, qui doit vivre autrement pour représenter Dieu sur la terre. D'accord? Ça, c'est les quatre grands thèmes. Et puis on a vu, ou les cinq, puis on a vu ensuite le langage de l'Ancien Testament. Rendre hommage à Dieu, vous l'avez à la première page de vos notes. L'adoration dans le langage, les mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour parler d'adoration, on parle de rendre hommage, d'exprimer une soumission reconnaissante, spécialement les mots associés avec le prosternement, se prosterner. D'accord? Alors déjà, ça, il peut avoir une distinction avec notre vision à nous de l'adoration dans le Nouveau Testament. Est-ce que vraiment il y a une attitude de soumission qu'on associe avec l'adoration automatiquement? Ça l'était dans l'Ancien Testament. Servir, on a vu que le peuple d'Israël était appelé à servir Dieu. Et régulièrement dans le langage, les mots « se prosterner » et « servir » sont associés. Donc être un adorateur dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui passe à l'action dans sa vie. On va voir dans les prochaines semaines comment ça se traduit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul va parler du service de l'Évangile. Est-ce que lorsqu'il est en train de se donner au service de l'Évangile, il est en train de vivre sa vie d'adorateur? Voyez-vous? Et enfin, on avait parlé de l'idée de révérence et de respect. Et là, ce qu'on avait fait ressortir surtout, c'est que chez les peuples environnants, il y avait cette idée de terreur qui était très forte. Lorsqu'un païen venait adorer son Dieu, il y avait cette idée qu'il devait être terrifié par la grandeur de son Dieu. On ne voit pas ça très, très présent dans l'Ancien Testament. On voit une crainte qui pousse à avoir une vie différente. On voit un respect qui pousse à avoir une vie différente. Et ce qu'on a souligné surtout, c'est l'association entre l'idée de craindre et de servir Dieu, d'aimer Dieu et de servir Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, avoir de la révérence pour Dieu, craindre l'Éternel, ça veut dire vivre autrement aussi. D'accord? Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. C'est l'aimer et le servir. D'accord? Dans notre vision, crainte, c'est peur. Pensez à la crainte que vous auriez pour un bon père qui vous demande de prendre soin de la maison en son absence. Le craindre, c'est pas craindre qui se fâche lorsqu'il va revenir. C'est avoir ce respect pour lui. C'est pas être terrifié par lui. Mais c'est certainement pas le voir comme mon pote non plus. Vous voyez, il y a comme une espèce de... On a vu que chez les peuples païens, je viens à toi Bertrand, on a vu que chez les peuples païens environnants, il y avait vraiment une idée de terreur qui était là. Et ce langage-là, en hébreu, il est très peu présent dans l'Ancien Testament. D'être terrifié par lui, non. Et une des raisons pour ça, je pense que c'était Suzy qui l'avait relevé, c'est que comment être terrifié par un Dieu qui montre autant d'amour et de grâce? Alors, ce ne sera pas une terreur. Ça va certainement être une crainte d'un Dieu qui pourrait nous juger. Mais être terrifié par un être bon et gracieux, ce n'est pas la même chose. On est terrifié par un despote. Tu es terrifié lorsque tu es sous le joug d'Hitler. Mais un bon père, tu n'es pas terrifié par lui. Tu as un saint respect, tu as une crainte. Tu ne voudrais pas qu'il s'emporte contre toi parce que tu ne l'aurais pas respecté. Mais ce n'est pas la même chose. Oui, Bertrand. Oui. Oui. Alors, une sainte crainte, Bertrand dit, il le voit surtout comme une notion de respect, comme on peut respecter nos parents. Et c'est juste. Le seul élément qu'on a ajouté la semaine dernière dans l'Ancien Testament, c'est qu'on voit que c'est souvent associé. C'est comme si pour Dieu, lui dire que tu le respectes, si ça ne t'amène pas à le servir, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, même l'idée d'aimer, les gars jouent avec les lumières parce qu'ils sont en train de filmer puis ils cherchent le meilleur éclairage, étant donné que je ne suis pas sur l'estrade. L'idée, même dans l'Ancien Testament, je vous l'ai souligné dans Deutéronome, entre autres, lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, bien généralement, dans l'Ancien Testament, il va être associé avec le mot « aimer », il va être associé l'idée de servir Dieu. D'accord? J'aime Dieu, je le sers. Ça va? Alors, ce matin, on entre dans les évangiles. On va se concentrer sur l'évangile de Matthieu et sur l'évangile de Jean. On va passer deux leçons sur les évangiles, donc de 2 à 3 semaines sur les évangiles. Et là, je vais juste vous faire un commentaire pour vous aider à saisir ce qu'on va faire, d'accord? Lorsqu'on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on lit les évangiles pour aller voir ce que Jésus a dit, d'accord? On a 4 évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Ça veut dire que dans les commentaires du narrateur de Matthieu, par exemple, il y a un message aussi. Lorsque je suis en train de lire l'évangile selon Matthieu, je crois que c'est une parole qui est inspirée de Dieu, mais je veux voir ce que Matthieu veut me dire sur Jésus aussi. D'accord? Quand j'arrive dans une section où Jésus est en train de parler, puis Jésus fait quelque chose, souvent il va avoir un petit commentaire narratif après, avant. On sait que les évangiles ne sont pas comme un récit historique comme on l'entendrait aujourd'hui. Alors, les mêmes événements ne sont pas toujours dans la même séquence lorsqu'on prend le temps de comparer les 4 évangiles. Et on doit toujours se poser la question, pourquoi Matthieu fait ça? Pourquoi Marc fait ça? Lorsqu'on prend le temps d'étudier en profondeur les évangiles, on se pose la question, pourquoi Matthieu met ça ici? Par exemple, tantôt je vais faire allusion à ça, dans l'évangile de Jean, la purification du temple se passe au chapitre 2. Si vous êtes avec nous régulièrement le dimanche matin pendant la prédication, vous savez que dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 22. Dans la dernière semaine, là, on se pose des questions. Est-ce que Jésus a fait ça 2 fois ou est-ce qu'il l'a fait juste 1 fois? Probablement 2 fois. Mais pourquoi Jean prend le temps de nous parler d'une purification du temple? Jésus chasse les vendeurs du temple au début de l'évangile de Jean. Pourquoi il fait ça là? Pourquoi il nous le raconte là? C'est pas juste parce qu'il y avait un petit calepin de notes puis il a dit ça s'est passé le 32e jour du ministère de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé le jour 33? Qu'est-ce qui s'est passé le jour 34? C'est pas juste ça, d'accord? Il réorganise des choses un peu dans le temps. Ce n'est pas un livre d'histoire comme nous, on l'a. Et il y a une intention, il y a un message qui est derrière ça. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? C'est parce que ce qu'on va essayer de faire ressortir ce matin, c'est comment Matthieu voyait Jésus. Alors, il y a ce que Jésus révèle sur lui, puis il y a comment Matthieu a compris ce que Jésus disait. Est-ce que vous suivez ça? Simon, t'as tout compris?
Oh, certain, certain.
Il y a ce que Jésus dit, puis il y a comment Matthieu a compris ça. Et nous croyons que tout ça, c'est inspiré de Dieu. C'est la richesse d'avoir 4 évangiles. Lorsque je m'en vais dans Matthieu, je découvre certains aspects de Jésus. Quand je m'en vais dans Marc, j'en découvre d'autres. Quand je m'en vais dans Luc, j'en découvre d'autres. Puis quand je m'en vais dans Jean, qui est complètement à part des 3 autres, oh, là, je découvre d'autres choses sur Jésus. Définitivement mon évangile préféré. Oui. Bien, nous croyons, la question de Diane, c'est est-ce que les évangiles ont été écrits à la même époque? À la même époque, dans le sens que c'était des contemporains. On croit vraiment que ces 4 évangiles-là sont attribuables à ces 4 auteurs-là. Et donc, ça veut dire même époque. OK. Ça, je vais te demander. Diane me demande s'ils étaient dans des régions différentes, comment ils ont pu rapporter les mêmes événements. D'ici 1 an ou 2, il va y avoir un survol du Nouveau Testament qui va passer. puis on va voir la rédaction des évangiles. Parce que ça rentre dans toute une question. Est-ce que Matthieu puis Luc ont lu Marc avant d'écrire leur évangile? On a l'impression que oui. Puis Jean, on a l'impression qu'il n'en a lu aucune des autres. Fait que lui est parti from scratch en français. Oui, est-ce que quelqu'un pourrait apporter les notes pour Diane, s'il vous plaît? Merci. J'espère que je ne vous ai pas trop mélangé avec mon affaire, là, mais c'est important pour comprendre ce qu'on... Est-ce que je vous ai mêlé? Faites juste lever la main si je vous ai complètement mêlé avec mon histoire. Dites-le franchement, s'il vous plaît. Non? Gang de menteurs. OK. Pardon. Oui? OK, on a une question ici. Pourquoi est-ce que Matthieu aurait sa vision personnelle s'il s'est inspiré du Saint-Esprit? Alors, encore une fois, là, je vais vous référer à un autre cours qui est un bon survol des doctrines essentielles sur l'inspiration, mais je vais quand même commencer à répondre à votre question. On croit, on observe tout simplement que le Saint-Esprit, en inspirant les auteurs, a respecté leur personnalité, à respecter leur intelligence, et à part des moments dans les Écritures où on a une révélation de Dieu. D'accord? Il y a des moments dans les Écritures où le prophète va parler, puis c'est pas mécanique, là, mais c'est dicté. Il entend, puis Dieu lui parle, puis il écrit ce que Dieu a dit d'écrire directement. Dans la majorité des livres, l'auteur est inspiré par Dieu, dirigé par l'Esprit-Saint. On le croit entièrement, c'est ce que les Écritures affirment elles-mêmes, mais à travers la personnalité de l'auteur. Et donc, ce que ça nous permet de voir, c'est que Matthieu, lui, va dire, ils ont tous rencontré le même personnage, Jésus. Mais Matthieu va dire, moi, je voudrais souligner particulièrement ça sur Jésus. Et il va aller citer des prophètes de l'Ancien Testament pour montrer en quoi Jésus est l'accomplissement de telle prophétie. Jean, lui, veut mettre un accent ailleurs. Et c'est comme ça qu'on voit que l'Esprit-Saint respecte les personnalités des auteurs dans l'inspiration des Écritures. D'accord? Et ça nous enrichit, puisque Jésus est une personne tellement vaste, n'est-ce pas? On parle du Fils de Dieu. Ça enrichit notre compréhension de Dieu. C'est vraiment fantastique le fait que Dieu ait permis qu'on ait 4 évangiles. Je suis à la page 2, qui est votre première feuille. D'accord? Au bas de la page. Alors, parlons du temple. Dans l'Ancienne Alliance, au centre de l'adoration pour le peuple d'Israël, il y avait un édifice qui s'appelait le temple. Il y avait une institution avec des rites, avec des sacrifices. Et la différence première qu'il faut souligner lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, au centre de l'adoration du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'édifice. Il n'y a pas vraiment d'institution, il y a très peu de rites, si on peut appeler ça des rites. On pense au baptême, on pense au repas du Seigneur qu'on va prendre tout à l'heure. Mais comparez ça avec l'Ancien Testament où il y avait les purifications, puis avant de faire ça, les prêtres devaient se purifier, puis ils étaient même menacés de mourir s'ils s'approchaient d'un lieu saint, tout ça. Il y avait tout ça au centre de l'adoration dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a une personne, Jésus-Christ. D'accord? Oui, Annie. Le fait d'arrêter, Annie pose la question, le fait qu'avec la venue de Jésus, on quitte le temple, on quitte les sacrifices, c'est ça le sens de ta question? Ça a été quand même assez drastique. Ça a été un bouleversement majeur. Puis en fait, Paul va passer, je vous dirais, le tiers de son ministère à essayer de s'expliquer avec les Juifs qui ont cru en Jésus sur pourquoi on doit abandonner tout ça. Alors là, oui, là, vous pouvez repenser à Galates, mais aussi à Romains, puis ils vont reparler dans Éphésiens, tout le mouvement des judaïsants, les Juifs qui ont cru en Jésus, qui disent, si les païens se sont convertis, puis ils ont cru que Jésus, c'est le Messie, bien, il faut qu'ils deviennent des Juifs messianiques, dans un sens, pour prendre une expression qu'on connaît aujourd'hui. Et ça va être tout un débat. Puis là, l'apôtre Paul, lui, justement, ce qu'il va défendre, c'est qu'il va dire, non, si vous faites ça, vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas ce qu'il était. Il n'est pas venu accomplir les choses, parce que là, on est en train de dire finalement qu'on reste comme avant, même si Jésus est venu. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas l'accomplissement de toutes ces choses-là. Et donc, ça a été un sujet majeur, extrêmement important. Oui, Camille. Alors, Camille souligne le fait que l'apôtre Paul lui-même va retourner à Jérusalem, va aller adorer. Donc, il ne méprise pas le temple, ça c'est clair. Je vous dirais, Paul dit qu'il est libre par rapport à ça. Il va être avec des païens, puis il va se permettre, je vais dire entre guillemets, là, d'enfreindre la loi, si je pourrais dire, d'accord, lorsqu'il est avec des païens, parce que la loi est accomplie. Est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui il y avait un temple à Jérusalem, ce ne serait pas intéressant pour nous d'aller là-bas et de dire « Seigneur, je vais aller faire ça pour souligner tout ce que tu as accompli. » Tout le reste de l'année, je suis convaincu que je rentre dans le temple quand je suis en train de prier Dieu. Mais je vais y aller juste symboliquement pour dire « Wow! Tout ça, là, ça a comme perdu son sens parce que tu as tout accompli ça. » On pourrait le faire de la même manière, d'accord? Le gros débat que Paul avait avec les Juifs qui ont cru en Jésus et qui voulaient que les païens fassent la même chose, c'est qu'ils disaient « il le faut ». Et Paul dit « donc, ce que vous dites, c'est que Jésus n'a rien accompli. C'est accompli ou ce n'est pas accompli. Ça devient nécessaire, ça demeure nécessaire ou ça devient optionnel. » Alors, Paul venait de sa culture, il respectait ça et il croyait que le temple annonçait Jésus. En fait, on ne voit jamais Jésus. Jésus ne dit pas, Camille dit, les chrétiens juifs pouvaient continuer ou continuer à pratiquer. Oui, mais on ne voit jamais Jésus dire, en passant les boys, quand je ressuscite, vous prenez des masses puis vous détruisez le temple. D'accord? Parce que ça, là. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que le voile se déchire de haut en bas. Alors, c'est symbolique, c'est assez clair, c'est assez ferme. Et un juif qui a bien saisi l'Évangile va comprendre qu'il n'est pas tenu de le faire. Parce qu'il n'y a plus de valeur à aller offrir un sacrifice. S'il voit encore une valeur purificatrice dans un sacrifice d'animal, c'est qu'il n'a pas compris Jésus. D'accord? J'avance assez vite, on va répondre à ta question. Qu'est-ce que symbolisait le voile qui se déchire? On en parle dans le cours un peu plus loin. Donc, une personne. D'accord? Ça, c'est le premier élément que je voulais souligner, là. Lorsqu'on parle de continuité, de discontinuité, disons-le tout de suite, au centre de l'adoration, dans l'Ancien Testament, un édifice, un bâtiment, un culte, des rites. Dans le Nouveau Testament, au centre de l'adoration, une personne. C'est déjà un changement majeur. La question, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne-là accomplit pour qu'elle soit au centre de l'adoration. Et on va aller souligner quelques éléments ce matin dans la perspective de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu estime que Jésus a accompli en venant? D'accord? Qu'est-ce que Matthieu souligne à travers son évangile que Marc ne soulignera peut-être pas de la même manière ou que Jean ne soulignera peut-être pas de la même manière? On est à la page 3, la deuxième feuille de vos notes. Je vous lis la citation que j'ai à peu près au milieu de la page. « Comme le tabernacle, le temple était considéré comme le lieu de rencontre du ciel et de la terre. L'endroit où le Dieu transcendant, le Dieu qu'on n'arrive pas à rejoindre, mais qui vient vers nous, se plaisait à manifester sa gloire au milieu de son peuple. En tant que représentation de la présence de Dieu au sein d'Israël et signe du règne divin, le temple était le point central de la vie des Israélites. » Alors, une des questions qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que Matthieu nous dit que Jésus est l'endroit, entre guillemets, où le ciel et la terre se rencontrent? D'accord? Le temple, c'était l'expression visible de la présence de Dieu. Avec l'alliance, avec l'institution du tabernacle, puis ensuite qui devient le temple, Dieu dit, je serai toujours présent parmi vous. Et là, vous avez déjà des passages dans Matthieu qui peuvent vous venir à l'esprit sur la présence. D'accord? Pardon? Oui, le temple, c'est le bâtiment dans l'Ancien Testament. Non. Non, c'est ça. OK, Diane, fais juste poser la question. Je l'ai mentionné tout à l'heure, tu n'étais pas arrivé, mais dans le Nouveau Testament, ce qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est l'idée que l'Église est le temple de Dieu. L'Église, le nouveau peuple de Dieu, est le temple de Dieu. Ce qu'on va voir un peu ce matin, c'est que selon le Nouveau Testament, Jésus est le temple, l'Église est le temple, mon corps est le temple si j'ai reçu l'Esprit Saint. C'est plus vaste que ce qui nous frappe aux yeux, nous, de dire c'est l'Église ou c'est mon corps. Il y a Jésus. En quoi Jésus est le temple? C'est un petit peu ce qu'on aborde ce matin. Le paragraphe qui suit, « Comme nous l'avons déjà vu, le rituel qui était pratiqué dans le temple permettait au peuple de Dieu de demeurer en communion avec un Dieu saint et permettait aussi au peuple de Dieu de vivre devant les nations cette vie différente à la gloire de Dieu. De plus, nous nous rappellerons que les prophètes avaient annoncé un temple nouveau où Dieu viendrait habiter de manière permanente et unique et où même les nations de la terre se réuniraient pour se joindre à Israël. » Moi, ce que je vous propose, c'est que Matthieu et Jean disent que Jésus est le nouveau temple. Dans Jean, c'est un peu plus explicite. Dans Matthieu, ça l'est un peu moins. Mais on voit que tout ce que le temple apportait à Israël, c'est Jésus-Christ qui va l'apporter dorénavant. D'accord? Et donc, c'est plus des indices qui nous sont donnés que des déclarations formelles. Jésus ne va pas aller jusqu'à dire lui-même « Je suis le nouveau temple ». Par contre, quand tu lis l'Évangile de Jean, il ne faut pas lire beaucoup entre les lignes pour comprendre qu'il est en train de dire qu'il va remplacer le temple. D'accord? Exactement, ça c'est dans Jean. Alors, il y a un verset qui dit « Détruisez ce temple et dans trois jours, je le rebâtirai ». Mais vous vous rappellerez peut-être, là, si on a le temps ce matin, on va le voir. Quand Jean écrit ça, il ajoute un commentaire comme narrateur, puis il dit, « Les disciples comprirent après la résurrection qu'il parlait du temple de son corps. » Donc là, la grande question, c'est, est-ce que Jésus était juste en train de parler de sa résurrection? Est-ce qu'il annonçait juste sa résurrection? Ou est-ce qu'il disait, « En 70, là, le temple va être détruit, les boys, mais de toute façon, il va déjà être rebâti dans ma résurrection. » OK? Le temple existait encore du temps de Jésus, définitivement. Ça, il n'y a aucun doute. Mais en 70, comme on le sait, parce qu'on est après ça, il va être détruit, définitivement. Alors, perspective de Matthieu. Je vais vous lire tout simplement la première citation, qui est assez longue. Je vais vous la commenter un peu après. Le Nouveau Testament commence par cette affirmation. Toute l'histoire d'Israël conduisait à Jésus-Christ, qui en était le seul objectif. Jésus-Christ est la manifestation ultime et définitive de la présence de Dieu au sein de son peuple. Matthieu introduit sa généalogie, son récit de la naissance de Jésus et du choix de son nom par ses mots. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Cette généalogie reflète la montée en puissance et la chute de la dynastie de David et suppose le rétablissement de cette lignée en la personne de Jésus. En tant que descendant de David, il est le roi messianique promis qui devait délivrer et rétablir Israël en le sauvant de ses péchés. Il dit un tout petit peu plus loin lorsqu'il donne le nom d'Emmanuel. En tant que descendant d'Abraham, il est celui par qui s'accomplit la promesse divine de bénédiction des nations. Je m'arrête ici pour la citation, il y en a déjà pas mal. Tournez avec moi dans Matthieu si vous avez une Bible à portée de main. Si vous êtes un peu familier avec les Écritures, la majorité d'entre vous l'êtes, là, je le vois. Vous connaissez l'importance des généalogies, tellement, tellement stimulantes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est toujours un grand plaisir de les lire. L'Évangile de Matthieu commence avec ceci, d'accord? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est l'introduction. Après ça, Matthieu va commencer à présenter cette généalogie-là. Mais il établit une relation directe entre trois personnages. D'accord? Abraham, David, Jésus. Quelle est la relation entre Jésus et David? Quelle est la relation entre Jésus et Abraham? Pourquoi est-ce qu'il les met dans cette ligne-là? Parce que les promesses faites à Abraham qu'on a commencé à voir se concrétiser à travers David vont véritablement venir s'accomplir uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'aboutissement des promesses qui ont été faites à Abraham, de ce que David n'a pas pu faire avec sa lignée parce que ça a été un échec. Vous voyez? Et là, ensuite de ça, il va donner la généalogie. C'est important, le Nouveau Testament commence avec ça, l'Évangile de Matthieu commence avec ça. Qu'est-ce que Matthieu croit sur Jésus pour nous présenter ça comme ça? D'accord? Et il va développer ça ensuite. Si vous allez au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » On va parler tantôt du fait qu'il n'est pas juste fils de David, mais fils de Dieu. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est l'aboutissement de toutes ces promesses-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va être réalisé avec Jésus qui n'a jamais été réalisé avant? Et Matthieu est en train de nous donner une direction pour nous aider à comprendre, nous aider à entrevoir tout ce que Jésus va venir accomplir dans sa personne qui n'a jamais été accompli avant. Je retourne à la page 4 de mes notes. Ensuite, Matthieu nous présente Jésus comme étant non seulement le parfait descendant d'Abraham et de David, mais surtout, de manière entièrement unique, le Fils de Dieu, sa conception relevant du Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne des promesses à Abraham. On commence à voir des choses s'accomplir en David. Ultimement, c'est un échec, d'accord? Parce que la lignée n'honorera pas du tout. Mais il y a des promesses encore qui sont données à David à ce moment-là. Qu'un jour, quelqu'un va venir et ce sera permanent, ce sera parfait, ce sera complet. Dans le même chapitre, Matthieu nous dit, non seulement il est le descendant d'Abraham, de David, mais il est le descendant de Dieu. Et là, ça, c'est complètement unique dans toute l'histoire des Écritures. Ça ne s'est jamais produit avant. Il y a quelque chose de nouveau qui va se produire avec Jésus qu'on n'a jamais vu avant. C'est certain qu'il y a des choses qui vont être bouleversées en profondeur avec la venue de Jésus. Jamais Dieu n'a eu de fils sur la terre de la même manière qui a été conçu par l'Esprit-Saint. Alors, David est plus qu'Abraham et David. Jésus est plus qu'Abraham et David, d'accord? Il est beaucoup plus que ça. Il est fils de Dieu. Et ça, c'est un thème que Matthieu va développer à travers tout son évangile pour démontrer qu'il est le fils de Dieu d'une manière surnaturelle. Pas de la même manière que vous et moi, on est des fils puis des filles de Dieu parce que Dieu nous a créés. Mais d'une manière unique et incomparable. C'était pas un fils de Dieu. En tout cas, c'est un autre sujet. Si tu veux, on pourra reparler de Melchisédek. Diane pose une question sur Melchisédek. Ensuite de ça, il est question du nom d'Emmanuel. Au verset 22 et 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Commentaire du narrateur, c'est ça que je vous dis. Lorsqu'on veut voir ce que Matthieu veut nous dire, commentaire du narrateur. Ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Matthieu qui parle. Matthieu nous dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce Dieu avec nous, est-ce que c'est le même Dieu avec nous que lorsque Dieu dit à Moïse, « Je vais être avec toi, puis parce que je suis avec toi, toi tu vas être avec ton peuple, donc je vais être avec vous. » Regardez, laissez-moi vous le dire comme ça, laissez-moi faire le prétentieux un petit peu. L'Église m'a dit que moi j'étais un des pasteurs de cette assemblée, d'accord? L'Église me dit que je suis censé paître le troupeau de Dieu. À quelque part, je suis censé lire les Écritures, être près de Dieu, puis certainement lorsque les anciens sont avec l'Église, il y a cette idée que on se rapproche de Dieu, on essaie de plonger dans les Écritures, pas d'une manière magique quelconque, mais comme dirigeant au nom de Dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bien, les anciens sont là, ils marchent avec le Seigneur, Dieu est avec nous, on est en train d'avancer. Ben, je pense que oui, on pourrait dire ça dans un sens. Est-ce que c'est ça dont il est question ici avec Jésus Emmanuel? Moi, je n'ai pas été conçu du Saint-Esprit, là. Je veux dire, ma mère est juste là, d'accord? Je vous le dis, je n'ai pas été conçu du Saint-Esprit. C'est ce que je dis. Alors, comment Matthieu interprète la prophétie d'Ésaïe lorsque Matthieu nous rapporte que Jésus a été conçu par l'Esprit-Saint? Est-ce que ça voudrait dire que Jésus est Dieu? Et que Dieu est littéralement parmi son peuple? Bien étudier l'évangile de Matthieu, là, c'est impossible de devenir, je m'excuse, je vais le dire dans le micro, témoin de Jéhovah. D'accord? C'est impossible. Oui? Je te le dirai. Pourquoi il ne s'appelle pas Emmanuel? C'est tellement plus beau que Jésus d'abord, tu sais, je veux dire. Parce que souvent, ben en fait, regardez ce que Jésus fait avec Pierre. On donne les noms comme des titres. La question qui est posée, c'est pourquoi finalement il ne s'appelle pas pour de vrai Emmanuel? Puis on ne l'appelait pas Emmanuel, mais on l'appelait Jésus. On pourrait aller étudier pourquoi Jésus, qui vient de Josué, puis dans les évangiles, on voit que Jésus est l'accomplissement, c'est le nouveau Josué, ça c'est un autre sujet. Mais souvent, les noms étaient utilisés comme des titres. Alors, il ne portera jamais ce nom-là, mais il est l'accomplissement de la prophétie et il a le titre d'Emmanuel. D'accord? C'est la seule explication que je peux te donner. C'est la seule que tu vas trouver dans toutes les Écritures, honnêtement. Tu lui donneras le nom de Jésus, mais on l'appellera Emmanuel, puis on ne l'appelle jamais Emmanuel. Alors, nous, on l'appelle Emmanuel en louant, dans la louange. Mais c'est parce que les noms avaient souvent des fonctions de titre, c'est ça ma réponse. Oui. Alors, est-ce que vous voyez que lorsqu'il prononce le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est d'une manière qui est incomparable. Les hommes n'ont jamais eu Dieu avec eux de la même manière. Et lorsque je veux aller le plus près de ça, je suis obligé de retourner au temple. Je suis obligé de retourner au tabernacle. Au moment de la dédicace du temple de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? En hébreu, c'est la Shekinah, la gloire de Dieu manifeste et descendue sur le temple. Tout le monde a dû se pousser de la bâtisse parce que Dieu arrivait, là, littéralement. Il arrivait, il prenait possession de sa maison, entre guillemets. Et lorsque je veux avoir quelque chose d'aussi puissant que ce qui est déclaré ici sur la personne de Jésus, il faut que je retourne là-bas. Est-ce que ça se pourrait que je commence déjà à voir un indice que Jésus va être la présence de Dieu sur la terre, comme dans l'Ancien Testament, le tabernacle et le temple étaient la présence de Dieu sur la terre? Est-ce que ça se pourrait que Jésus soit en train d'accomplir ce que le temple dans l'Ancien Testament devait accomplir? Est-ce que Matthieu me donnerait déjà des indices de ça? Oui, Linda. Non, mais l'association que je fais, c'est que dans l'Ancien Testament, quand le prophète de Dieu était avec le peuple, Dieu était avec le peuple. Quand le roi était là, on sait que l'Esprit de Dieu venait sur le roi. Donc, quand le roi dirigeait, Dieu était avec le peuple. Mais jamais il est dit dans l'Ancien Testament que le roi était conçu de l'Esprit-Saint. Fait que là, tu as Emmanuel, deux versets avant, tu apprends que ce Emmanuel-là, ce Jésus-là, va être conçu de l'Esprit-Saint. Mais là, il est fils de Dieu. Il n'est pas juste fils d'Abraham, fils de David, il est fils de Dieu. Physiquement fils de Dieu. Il y a un élément là, dans ce qu'il est, là, qui est unique, qui est incomparable. Puis là, après ça, il nous dit, interprétons ça maintenant. Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce que c'est juste symbolique? Est-ce que c'est juste parce que Jésus a la faveur de Dieu? Ou est-ce que c'est parce que Dieu vient parmi nous? D'accord? Vous réalisez ce passage-là, là, puis vous allez lire Jean 1. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Juste avant, la parole était Dieu. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Là, tu dis, OK, Jean pensait que Jésus était Dieu et que Dieu était venu vivre parmi les hommes, mais Matthieu aussi pensait ça. D'accord? C'est moins évident dans Matthieu. Il faut prendre le temps d'aller plonger dans le passage. Là, vous avez une petite idée des frustrations qu'on a quand on étudie la parole toute la semaine, puis il faut résumer ça dans une prédication de 45 minutes. On découvre des choses comme ça constamment dans la parole. Mais c'est vraiment superbe. Oui? En fait, on a juste une prophétie qui nous est donnée. Ah, tu veux dire, est-ce que le terme était utilisé pour l'éternel? Non, je ne pense pas. Pas que je me souvienne. Oui. Oui, c'est drôle. En tout cas, il y a un jeu même de temps là, dans la langue originale. Là, je voudrais pas te confondre. Mais c'est une prophétie. C'est clair dans l'Ancien Testament que c'est une prophétie dans Ésaïe qui nous dit qu'il va venir un enfant qui va naître d'une vierge. D'accord? Et donc, Jésus est l'accomplissement de cette prophétie-là, d'une manière unique. Tournez dans Matthieu 12. Là, je veux juste souligner le fait, je reconnais que Matthieu ne déclare jamais que Jésus est le temple. D'accord? Il ne le déclare pas de manière explicite. Jésus ne va pas le faire non plus de manière explicite. Presque. Bien honnêtement, s'il ne dit pas qu'il est le temple, il dit qu'il est plus que le temple. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 12. C'est dans tout le débat que Jésus a eu avec les pharisiens sur le sabbat. Vous vous rappelez de ça? Ses disciples étaient en train de cueillir des épis un jour de sabbat. Puis là, il entre dans un débat avec les pharisiens. Et puis, lorsqu'on va un petit peu plus loin, là Jésus embarque dans tout un argument avec l'Ancien Testament, avec David, tout ça. Maintenant, au verset 5. « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et Matthieu est en train de dire ici que parce que les disciples sont avec Jésus, ils sont en train de servir Dieu. Et si les sacrificateurs pouvaient violer le sabbat le jour du sabbat pour faire leur service à Dieu, est-ce que les apôtres qui sont en train de suivre Jésus ne pourraient pas violer le sabbat pour suivre Jésus? Parce qu'il y a ici plus que le temple, il y a le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Avez-vous suivi ça? Vous êtes tous perdus? C'est bon? OK. Alors Jésus ne dit pas qu'il est le temple, il dit qu'il est plus que le temple. Et si c'était justifiable de violer le sabbat pour servir Dieu, est-ce que ce ne serait pas pour servir le Fils de Dieu? Ça, c'est le terme qu'il utilise. Là, ça fait référence à Daniel, un autre sujet encore. Mais il parle de lui. Il parle de lui. Lorsqu'il parle du Fils de l'homme, c'est un titre qu'il se donne à plusieurs reprises, où le Seigneur Jésus, il y a une allusion, entre autres, à un passage dans Daniel. Donc, Jésus ne va pas affirmer qu'il est le temple. Il va dire qu'il est plus que le temple. OK, donc, est-ce que Jésus accomplit le temple? Moi, je pense que oui. Pardon? En fait, il parle toujours au singulier, le Fils de l'homme. Non, toi, tu penses à Jean 1. Tu es en train de citer Jean 1. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ça que tu parles? OK. Ah oui, OK. Tu es dans l'Ancien Testament avec une question sur les anges puis tout ça. Un autre sujet. On a beaucoup de bons cours, hein? Survol des doctrines, survol du Nouveau Testament, survol de l'Ancien Testament. On va essayer de répondre à une question, l'adoration. Mais c'est des bonnes questions que vous posez. La Transfiguration, chapitre 17. Là, je réalise qu'on va juste survoler Matthieu ce matin, on ne fera pas Jean. Vous le savez depuis longtemps, hein? Matthieu 17. Je vous lis le bas de la page 4 dans vos notes. La Transfiguration au chapitre 17 nous dévoile un autre indice important de la compréhension que Matthieu avait de la personne de Jésus-Christ. La gloire de Dieu qui se manifeste sur le visage de Jésus, ça c'est important. Quand j'ai prêché là-dessus, j'ai essayé de le faire ressortir. La gloire de Dieu qui se manifeste sur le visage de Jésus n'est pas le fruit d'une retraite de 40 jours auprès de Dieu. D'accord? Quand Moïse s'est retiré auprès de Dieu, ce qu'il y avait sur son visage, c'était le reflet. Il était dans la présence de Dieu. Tu ne sors pas de là sans que ça paraisse. D'accord? Fait qu'il y a eu son suntan parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il était phosphorescent. Dans le cas de Jésus, ce n'est pas ça. Cette gloire-là émane de lui. Tout d'un coup, ce qui se passe, si je peux le mettre à l'inverse, le voile de son humanité est retiré. Et là, tout d'un coup, on découvre qui est Jésus. On a un aperçu. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, cette gloire-là, qui est manifesté fait référence aussi à la Shekinah dont je vous parlais tantôt dans le temple. D'accord? Chaque fois que Dieu se manifeste, sa gloire est manifeste, il y a une lumière, c'est extraordinaire. C'est la même chose qui se passe à la transfiguration. C'est comme si le voile de l'humanité de Jésus était retiré pour quelques instants. Puis après ça, c'est remis, puis on redescend de la montagne. Et c'est des aperçus que Jésus donne où progressivement, dans son ministère avec les disciples, il va leur révéler qui il est. Lorsque tu retournes lire Jean 1, après, tu comprends mieux lorsqu'il dit « On a vu sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. » D'accord? Oui. Définitivement, dans l'éternité, on va le voir dans sa gloire. Diane pose la question, lorsque c'est dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, c'est ça qui est extraordinaire, mais là tu m'emmènes dans un sujet sur la divinité de Christ, puis juste la personne de Christ. Là. Ça c'est le cours de Stéphane, Christologie. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'en Jésus, ce qui est impossible avec Dieu le Père devient possible avec Jésus-Christ. Il y a une communion qu'on ne peut pas avoir avec Dieu le Père, qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Puis comme le Père est dans le Fils, quand tu es en communion avec le Fils, tu es en communion avec le Père. C'est pour ça qu'après, lorsqu'on arrive avec des sectes qui vont attaquer la divinité de Christ, c'est un blasphème qu'ils ne sont même pas capables de mesurer. Là. Ils sont pas capables de concevoir, ils n'ont pas saisi qui est Jésus. Oui, Émilien. Exactement. Lorsque Paul a eu la vision de Jésus, hein, lorsqu'il lui est apparu, il y a eu exactement la même manifestation de gloire. Et puis Paul était sidéré. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Mais c'est moi, c'est Jésus. D'accord? OK, c'est bon. Donc, avec la transfiguration, on voit apparaître Jésus dans sa gloire. À la fin, justement, de ce paragraphe-là, nous y voyons, bien sûr, une référence à la Shekinah, la gloire de Dieu qui se manifesta à la dédicace du temple, un signe de la présence de Dieu parmi son peuple. Et les disciples sont appelés à l'écouter attentivement. Jésus-Christ vient nous révéler Dieu. Un autre des éléments qui est important, la transfiguration, si vous vous rappelez du thème dans l'Ancien Testament de la révélation, être un adorateur de Dieu, c'est adorer le Dieu qui se révèle. On ne pourrait pas le connaître s'il ne se révélait pas à nous. Là, je vais sortir de Matthieu juste un instant parce que c'est dit tellement clairement. Au début de la lettre aux Hébreux, l'auteur dit, après avoir parlé de plusieurs manières à travers les prophètes, Dieu nous a parlé dans les derniers temps à travers son Fils Jésus-Christ. Ici, à la Transfiguration, dans l'Évangile de Matthieu, la manière que Dieu termine cet épisode-là, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » D'accord? Est-ce que Jésus serait le Dieu qui se révèle? Est-ce qu'il est aussi une révélation de Dieu? Et connaître Dieu, devenir un adorateur, c'est connaître Jésus-Christ. Ce qui sous-entend que lorsque je ne suis pas un chrétien, mais j'ai beaucoup de respect pour Dieu comme un grand sage. Est-ce que je peux être un adorateur? Je n'ai pas connu Jésus. Tu as connu Jésus quand tu tombes à genoux. Là, tu commences à connaître qui est Jésus-Christ et il est la révélation de Dieu. D'accord? Alors, le thème de la révélation dans l'Ancien Testament vient se développer dans le Nouveau Testament. Et on va avoir une révélation de la personne de Dieu comme on n'en a jamais eu dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ce matin? D'accord? Je suis plus dans les. On n'est pas encore dans les éléments pratiques. Comment un croyant du Nouveau Testament va être un adorateur? Mais on s'en va dans cette direction-là. Parce qu'un croyant du Nouveau Testament va avoir Christ au centre de son adoration. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec cette idée qu'on néglige l'Esprit Saint, par exemple. Toujours un peu mal à l'aise avec cette idée-là. L'Esprit Saint est là pour nous révéler le Fils. C'est son rôle, c'est sa fonction. Je vais honorer l'Esprit en honorant le Fils. D'accord? Alors, tout le Nouveau Testament, c'est une personne qui est au centre. Et si je veux savoir comment être un adorateur, je vais être attentif. Vous savez, Il y a une semaine ou deux, là, j'ai fait une petite montée de lait en prêchant, puis à la fin de la prédication, j'ai dit, est-ce que Jésus, c'est un flyer lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » Bien, à la lumière de ce qu'on vient de voir ce matin, est-ce que c'est Dieu qui nous dit ça, oui ou non? Est-ce qu'on niaise avec la parole de Dieu? Vous comprenez? C'est Dieu qui nous dit de faire ça. C'est Dieu qui nous dit qu'on devrait aimer Jésus, puis là, ça fait tout son sens, plus que ma mère, que mon frère, que mes enfants, que mon épouse. Mais si Jésus est Dieu, est-ce que ce n'est pas légitime que j'aime Dieu, Jésus, plus que mes parents, mes enfants? C'est le premier commandement, de ne pas avoir d'idole. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous. Je dois être prêt à le suivre et à l'aimer plus que n'importe qui d'autre. C'est le premier commandement. Quand Jésus a fait ça, il n'a pas demandé quelque chose qui n'était pas demandé dans l'Ancien Testament. Ben, c'est une bonne question. Diane me demande si c'est faisable. Ben, j'ose croire que Dieu est Dieu et qu'il ne nous demande pas l'impossible. Puis je crois aussi qu'on a la grâce pour demander pardon chaque fois qu'on n'arrive pas à le faire. Ça, c'est clair aussi. Je ne pense pas que j'arriverai à le faire parfaitement. Ça, c'est clair. Mais c'est clair que je dois chercher à faire ça puis me repentir quand je ne le fais pas. D'accord? Oui, là, vous êtes dans une question très pratique. On fait une petite parenthèse. Non, vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux pour adorer. Mais il faut que vous soyez à genoux dans votre cœur. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a vu la semaine dernière avec le prosternement. D'accord? On a vu même que dans l'Ancien Testament, cette expression-là a évolué pour exprimer souvent une attitude de cœur plus qu'un geste physique même. D'accord? Il me reste 2 minutes, on va avancer un petit peu. Au haut de la page 5, l'évangile de Matthieu se termine sur ce thème de la présence de Dieu. En effet, au moment où Jésus envoie ses disciples en mission, il leur assure sa présence permanente avec eux et sa puissance les accompagnant. À la lumière de tout ce qu'on a dit ce matin, là, repensez à la promesse que Jésus donne lorsqu'il leur dit « Allez, faites de toutes les nations de la terre ». Lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et repenser à ce qu'était le tabernacle, ce qu'était le temple dans l'Ancien Testament. Encore, le tabernacle, le temple, c'était le signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était la manifestation que le Dieu Tout-Puissant était au milieu de son peuple. À la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu décide de terminer son évangile avec ces paroles-là de Jésus. Et ce que Jésus dit à ce moment-là, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Ça ressemble drôlement à « Tout-Puissant », là. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui voudrait avoir le temple après ça? Qui voudrait avoir le tabernacle après ça? Alors, Matthieu ne dit jamais que Jésus est le temple. Mais Matthieu nous montre drôlement que Jésus accomplit de manière permanente, parfaite, de manière même qui dépasse tout ce que le temple accomplissait comme rôle. On le trouve en Jésus. Certains disent que le temple va être reconstruit. Ça, c'est une question d'eschatologie. On verra un jour si je suis prémille ou dispensationaliste. Ça, c'est le cours de Stéphane, avec lequel je suis assez d'accord. On va terminer par un mot de prière. Vous pouvez, si vous voulez me rendre un petit service, lisez vos notes cette semaine. Ça va m'aider, parce qu'il va falloir que je file un petit peu plus vite la semaine prochaine. Mais... ouais, vous pourriez m'envoyer vos questions, tout à fait, ça me ferait plaisir. Ça peut m'aider à les anticiper. Monsieur Famelard a la feuille de présence. Je vous demande de signer la feuille de présence. Ça nous aide à apprécier votre assiduité. Si vous vous joignez au cours, que vous désirez revenir, signez la feuille de présence, mettez votre adresse courriel. On va vous donner le lien pour toutes les notes puis les MP3. Donc, vous pouvez suivre le cours si vous manquez une semaine, d'accord? Alors, on va l'ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, après avoir dit toutes ces choses, que dire d'autre, Seigneur?